comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Une autre partie de la série sur le Notre Père. Qu'il est difficile de pardonner, mes sœurs, mes frères. Certains vont même dire que dans certaines situations, c'est impossible de pardonner, tellement la blessure est grande, tellement l'offense est lourde. Et puis, qu'il est difficile de pardonner de tout notre cœur, comme Jésus nous le demande dans la parabole qu'on a lue aujourd'hui. En fait, si vous êtes comme moi, vous êtes habitué, et c'est une très mauvaise habitude, de pardonner en partie seulement, de me faire à croire que j'ai pardonné, de pardonner seulement partiellement, c'est ça. C'est un faux pardon. Pour Jésus, ne pas pardonner de tout mon cœur, c'est de ne pas pardonner du tout. Je viens de voir un film récent qui s'appelle « Les deux papes ». Alors, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, je ne sais pas si c'est un sujet qui peut vous intéresser, mais c'est un film quand même très populaire. C'est l'histoire d'une rencontre entre François, le pape actuel, et en fait, les personnages ont d'autres noms, parce que quand quelqu'un devient pape, on lui donne un nouveau prénom. Mais en tout cas, c'est l'histoire d'une rencontre entre François, le pape actuel, et puis Benoît XVI, le pape précédent, qui en passant est encore vivant, il a démissionné. Donc, tout ça, ça rentre dans l'histoire. Et à un moment donné du film, François raconte à son ami Benoît que lorsque lui était responsable des jésuites en Argentine, il avait exclu de la compagnie des jésuites deux prêtres qui voulaient continuer leur travail missionnaire auprès des pauvres, malgré une interdiction qui venait du nouveau gouvernement militaire, qui voyait ce travail comme dangereux, comme subversif, peut-être communiste. Et les deux prêtres, convaincus de leur mission, ont continué leur travail. François les a exclus. Et puis, comme ils ne profitaient plus de la protection de l'Église, ils ont été arrêtés par la junte militaire, emprisonnés pendant des mois et torturés. Miraculeusement, ils ont survécu. Alors, beaucoup plus tard, François, qui avait réalisé qu'il avait compromis sa vraie mission et sa foi, est allé les retrouver pour leur demander pardon. Puis il y en a un des deux qui, avec beaucoup de difficultés, décide de le pardonner complètement. Il y a une belle scène de réconciliation. L'autre a décidé que non, ce n'était pas pardonnable. Et au bout du compte, il est mort en refusant de pardonner. Ouais. Qu'il est difficile de pardonner. Le pardon semble parfois impossible et même des fois pas souhaitable parce que ça paraît si injuste. Dans le Notre Père, Jésus précise qu'il nous faut prier ceci. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. On l'a même chanté tantôt. Peut-être qu'il y a quelqu'un ici qui l'a chanté sans même remarquer. Mais c'est un engagement qu'on prend devant Dieu en disant cela en prière ou en chant. Et Jésus rajoute ceci, et ça c'est comme explication de la prière. Il dit, si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. Dans la suite de l'Évangile, Jésus va insister sur le pardon comme la marque nécessaire de son disciple et comme la marque nécessaire de la communauté de ses disciples. Dans le chapitre 18, où se trouve la parabole qu'on a lue tantôt, avant la parabole, il y a plusieurs enseignements de Jésus sur comment l'accueil dans la communauté des disciples, donc ça veut dire dans l'oasis aussi, comment l'accueil les uns des autres doit être extraordinaire. Jésus est en train de nous dire, il faut que l'accueil les uns des autres ici, la fraternité, l'accueil, il faut que les gens, quand ils nous regardent, disent, ça a l'air de venir d'un autre monde. Et c'est le cas pour le pardon aussi. Juste avant notre parabole, Jésus dit à Pierre que si son frère dans la foi l'offense à répétition, il doit lui pardonner non pas 7 fois, mais 70 fois 7 fois. Qui veut dire « pas de limite » dans le langage de Jésus. Et puis, il poursuit avec la parabole qu'on a lue pour expliquer le principe, expliquer la théorie derrière. Donc, ce matin, je vais essayer avec vous d'éclairer cette prière qu'on prie, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons, avec l'aide de la parabole. Puis en fait, j'ai 4 choses à dire sur la parabole, 4 choses sur le pardon. Premièrement, le chrétien qui ne pardonne pas, vous allez voir, je formule les choses négativement, pas pour vous faire peur, pour nous amener, j'espère, vers la vraie solution. Le chrétien qui ne pardonne pas est un obstacle au royaume de Dieu aux yeux de Jésus. Parole dure. Aux yeux de Jésus, le chrétien qui ne pardonne pas est un obstacle au royaume de Dieu. Puis on vient de prier que ton royaume vienne. Alors, pensons-y bien là. Dans le contexte, le but de Jésus est de créer des communautés, des églises, si vous voulez, qui vivent le pardon. Des églises où les membres se pardonnent les uns aux autres et aussi pardonnent à ceux de l'extérieur qui leur ont fait du mal. Je pense qu'il faut le dire d'une manière encore plus forte. Non seulement est-ce que Jésus nous appelle à pardonner, mais à pardonner d'une manière si généreuse et si surprenante que ça va devenir une force d'évangélisation, une manifestation de la présence, même de la gloire de Dieu dans le monde. Okay? Jésus nous demande de pardonner d'une manière si généreuse et si surprenante que ça va devenir une force d'évangélisation. Pourquoi? Parce que cela va manifester la gloire de Dieu dans le monde. Ce n'est pas le but premier. On pardonne pour pardonner à cause de l'amour. Mais le résultat, c'est là où Jésus veut qu'on en vienne. Ailleurs, dans le même évangile, quand Jésus dit « Vous êtes la lumière du monde, faites donc briller vos bonnes œuvres dans le monde. » Le pardon est sans doute l'œuvre par excellence qu'il nous faut faire briller dans le monde. D'une certaine manière, le pardon est une œuvre plus importante même que l'aide aux pauvres. Et on en parle beaucoup de l'aide aux pauvres parce que c'est très important. Mais saviez-vous que Paul nous dit que tu peux aider un pauvre sans amour? Paul dit, je peux même donner toute ma fortune aux pauvres. Mais si je n'ai pas l'amour quand je le fais, aux yeux de Dieu, c'est comme une cymbale qui retentit. Ça vaut rien. C'est Paul qui le dit, hein? Par contre, est-ce qu'on peut vraiment pardonner sans amour? Je ne vois pas comment. On ne peut pas pardonner sans amour. Donc, la lumière qu'il faut faire briller dans le monde commence avec le pardon des hommes. Maintenant, le vrai pardon n'efface pas la nécessité de justice. Le vrai pardon n'empêche pas non plus, dans certains cas, qu'il faut redéfinir une relation qui est malsaine. Le vrai pardon n'efface pas non plus le travail qui est nécessaire pour bâtir une vraie réconciliation. Cependant, le vrai pardon témoigne toujours que la réalité de la justice, de la sagesse pour redéfinir une relation et que les moyens de réconciliation sont possibles parce qu'ils découlent de la grâce de la croix de Jésus-Christ. Son sang a coulé et permet réconciliation, sentiment de justice, sagesse et même rebâtir des relations brisées. Mes frères et sœurs, engageons-nous dans le mandat que Christ nous donne de pardonner. Et évitons de loin ce risque d'être un obstacle au royaume. Engageons-nous dans cette vie de pardon. Deuxième chose que je voulais dire, c'est qu'aux yeux de Jésus, le chrétien et la chrétienne qui ne pardonne pas n'a pas compris la générosité de Dieu. L'histoire qu'on a lue tantôt, du serviteur qui n'a rien compris, avait une dette individuelle envers son maître, son boss donc, qui était aussi son propriétaire, une dette de 10 000 sacs d'argent, et dans l'original, c'est marqué 10 000 talents d'argent. Okay? Ça, c'est important parce que j'ai fait un calcul. Les historiens ont trouvé des données comme quoi la taxe totale de l'Empire romain, taxe annuelle totale sur toute la Palestine, c'est-à-dire les cinq régions de Judée, Samarie, Galilée, Idumée et Pérée, toute la Palestine, la taxe impériale annuelle était de 800 talents d'argent. OK, 800 talents d'argent, c'était une pile d'argent. Une pile d'argent. Mais ce serviteur avait une dette de 10 000 talents d'argent. C'est 12,5 fois plus que la taxe totale annuelle de l'Empire sur tout le pays. Clairement, Jésus fait exprès de créer une situation exagérée dans cette histoire, impossible même, pour nous communiquer une réalité spirituelle. Cette réalité, c'est que à cause de mon péché, ma dette envers Dieu, elle est grande à l'infini. Ma culpabilité, en quelque sorte. Aucun d'entre nous n'est capable de le rembourser. Pas même arriver proche. Et c'est au point que de même penser d'être capable, c'est montré comme ridicule, juste par la manière que Jésus a fait cette histoire. Alors, on peut se demander pour nos amis pourquoi cette dette du péché est si grande? C'est une bonne question, puis j'ai entendu des personnes non-croyantes poser cette question. Et des croyants aussi se posent cette question. Je pense que dans leur tête, ça va avec la question, pourquoi Dieu votre Dieu, là, qui est créateur, vous dites qu'il est amour, et puis il est si facile à offenser, si difficile à plaire, si rapide pour vouloir punir, si sévère. Même, est-ce que c'est un Dieu qui aime la vengeance? Alors, peut-être ça choque un pasteur qui dit ça un dimanche matin, mais parlez à vos amis quand vous leur expliquez l'Évangile. Cette question va venir sur le tapis, ou pourrait venir sur le tapis. Puis je pense que c'est impossible pour nous les humains de saisir l'ampleur des choses dans le cœur de Dieu. Oui, c'est vrai, Dieu est amour. Dieu n'est pas jugement, mais sa justice, son jugement s'inscrit dans son amour. Et c'est très difficile pour nous de comprendre ces mystères-là. On les accepte parce que Jésus nous les enseigne. Mais moi, personnellement, ce qui m'aide à accepter l'immensité de ma dette devant le cœur de Dieu, je considère les facteurs suivants et je vous les propose. Premièrement, je repense à mes attitudes indifférentes et rebelles du passé, notamment quand je ne connaissais pas encore tout l'Évangile et que je vivais sans égard pour Dieu. Quand je connais maintenant qu'est-ce que Dieu veut de moi, cette relation intime, personnelle, exclusive avec lui, et comment que j'étais avant dans mes attitudes, il y a un gros décalage. Deuxièmement, mes nombreux péchés répétés, même maintenant que je suis pasteur, mes nombreux péchés répétés que je confesse, puis parfois il y en a certains que j'ai de la misère à ne pas laisser ressurgir. Alors, je vais vous rassurer, je crois, autant que je sache, ce n'est pas des péchés publics qui vont amener de la disgrâce sur l'Oasis, mais ils sont là pareil. Puis si vous voulez me congédier le 23 février, c'est peut-être mieux pour moi parce que c'est ma réalité. Il y a du péché qui ressurgit dans ma vie et je dois le confesser. Il y a d'autres personnes dont j'ai endommagé la vie sur mon parcours. Il y a de nombreuses occasions d'honorer Dieu par mes paroles, mes gestes, que j'ai ratées ou que j'ai décidé de ne pas prendre. J'ai eu beaucoup de péchés inconscients et j'en ai encore beaucoup aujourd'hui. Je le sais parce que Dieu me les révèle après coup. Alors, je me dis, oh wow, quand j'ai fait ça ou quand j'ai omis de poser tel geste, je ne m'en rendais même pas compte. Dieu, dans sa bonté, il me les révèle parfois très doucement après, puis je peux les confesser. Mais je me dis, wow, j'en manque beaucoup. J'en manque beaucoup. Et puis ça continue. Mais évidemment, je crois à ma sanctification. Je crois que je m'en vais vers la perfection par sa grâce. Mais regardons les choses en face. Et puis, savez-vous quoi? Je participe à des péchés corporatifs. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je fais partie de communautés, de groupes qui commettent des crimes, qui commettent des offenses envers d'autres humains. Et je suis coupable par association. Il y a parfois des choses que le gouvernement québécois, que le gouvernement canadien fait en mon nom. Je paye des taxes et puis avec mes taxes, ils vont poser des gestes, prendre des décisions qui, finalement, moi, m'aident dans mon niveau de vie, mais d'autres souffrent. Et puis, ça serait facile de dire, bien, ça ne me regarde pas, je ne suis pas au courant des décisions. Mais je ne suis pas sûr, en lisant la Bible, quand Dieu il parle à telle ville, que ce soit Tyr, Sidon, Jérusalem, souvent c'est tout le monde ensemble qui est inculpé. Il y a des péchés corporatifs. Édom qui a envoyé une armée pour profiter de la faiblesse d'Israël, Dieu était fâché contre tout Édom. Péché corporatif. Le mal qui se fait dans l'humanité tout entière maintenant. Je fais partie d'une race rebelle contre Dieu. Et surtout, finalement, la gloire infinie de Dieu, son amour infini, sa sainteté infinie, son attente de sa relation avec moi devient haute, pas parce qu'il est méchant, mais parce qu'il est amour. Donc, je me dis, et d'autres chrétiens ont déjà dit ça, donc la moindre petite offense prend dans son cœur une proportion que je ne peux pas mesurer la grandeur. Je vais arrêter ma liste, OK? Avec tout ça, est-ce que je suis triste? Oui, des fois, je suis triste. Est-ce que je suis découragé? Non, je ne suis pas découragé parce que Je suis un pécheur pardonné. Amen!
Amen.
À cause de la grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. C'est un chant, puis c'est vrai. Dieu a été généreux envers moi. Comme avec le serviteur dans l'histoire, il a été saisi de compassion pour moi dans ma situation plus que désespérée au niveau spirituel. Il a eu compassion de moi. Il voyait peut-être que je me débattais avec ma dette par des façons d'essayer de régler ça qui étaient comme ridicules. Il m'a généreusement dit, « Ce que tu dois là, Marc, oublie ça, je le veux même pas. » Je l'efface. On applaudit notre Dieu. Alléluia. Maintenant, je l'efface. Je t'adopte. Je te pardonne. Je te purifie. Maintenant, va vivre ta vie comme mon enfant, dans la joie, dans le pardon et dans l'amitié avec moi. Amen.
Amen.
Amen. Ma sœur, mon frère, as-tu reçu le pardon de Dieu? Je pense qu'en applaudissant, tu as dit oui. En tout cas, saisissons. Parce que vraiment, tu en as besoin. Si tu es comme moi, tu en as vraiment besoin de ce pardon. C'est ton seul espoir pour la vie éternelle avec Dieu. Saisis ce cadeau. Reçois Christ dans ton cœur. Ce n'est pas difficile. Jésus, tu es mort pour moi. Je t'invite dans ma vie. Deviens mon maître et Seigneur et pardonneur. Et engage-toi avec moi, ma sœur, mon frère, dans le mandat que Christ nous donne de vivre dans la joie, dans la reconnaissance et dans le pardon. Troisième point, il y en a juste quatre, alors si vous calculez le temps, je vais essayer de finir à une heure raisonnable. Le chrétien qui ne pardonne pas n'a pas compris son propre salut. OK, mais regardez-le aller, parce que le serviteur ici, il représente le dilemme dans lequel on est en tant qu'humain. Regardez-le aller, ce serviteur. Il sort de la présence du roi qui vient de lui remettre une dette qui est 12 fois plus grosse que la taxe impériale de toute l'année sur tout le pays. Il vient de dire, regarde, j'efface la dette, va, tu es libre. Alors, si vous aviez à réécrire l'histoire, que pensez-vous que ce serait une suite normale dans le verset 28 qui commence comme ceci? Une fois sorti, ce serviteur, puis j'aimerais que vous m'aidiez à terminer la phrase, qu'est-ce qui serait comme normal? Qu'est-ce qui serait comme une belle continuation? Dansait dans la rue. Excellent. Y a-t-il d'autres idées? Un câlin à son ami. Oui, viens danser avec moi. D'autres idées? Oui, oui. Ça, c'est mon point 4. Mais oui, il aurait à cœur de pardonner. Ben oui, ben oui. Vos suggestions sont toutes appropriées. Mais lui, regardez-le. On constate qu'il est encore dans l'ancien mode de pensée absurde qui dit, je ne sais pas comment on réfléchit comme ça, mais finalement, ma dette envers Dieu, je peux la gérer finalement. Je vais lui rembourser. J'en suis capable. Je suis une bonne personne. C'est peut-être pas aussi grave que le roi pensait. Puis peut-être qu'il se dit, je vais rembourser. Hey! Lui, il me doit des sous. Ah, donne-moi ça. Peut-être qu'il se disait, j'ai besoin de récupérer mon argent parce que je vais pouvoir rembourser mon roi. Et lui, il faut qu'il me redonne qu'est-ce qu'il me doit. Peut-être qu'il pense qu'il peut impressionner Dieu, puis c'est sur cette base-là qu'il va être l'ami de Dieu. Mes frères et sœurs, ne faisons pas cette erreur mortelle, soit consciemment ou soit par notre manière tordue de penser inconsciemment. Mais entrons pleinement dans cette nouvelle identité de pécheur pardonné qu'on a applaudi tantôt. Engageons-nous de nouveau dans ce style de vie humble. Crime, on est des criminels disculpés. Soyons humbles. Et puis, ayons confiance dans notre papa qui nous a pardonné, qui nous a effacé notre dette. Il va s'occuper de nous. Et on n'a pas besoin de s'occuper de notre réputation, de notre compte en banque. C'est lui qui le fait. Mon dernier point, c'est que le chrétien qui n'arrive pas à pardonner, ben j'ai une bonne nouvelle pour toi. Il y a encore de l'espoir. Amen. Si Jésus nous raconte cette histoire, c'est qu'il sait que nous aurons de la difficulté à pardonner des fois, mais qu'on peut apprendre à pardonner grâce à sa puissance, grâce à son action dans nos cœurs. C'est un miracle, il va le faire dans ta vie. Accroche-toi, attache ta tuque, il va t'apprendre à pardonner. Et pour certains, ça peut peut-être être plus difficile que pour d'autres, vu ce que vous avez vécu, mais la demande est la même. Je peux te dire une chose en tout cas, si tu as de la difficulté à pardonner, moi je ne te juge pas, je te dis bienvenue au club. Je me rappelle d'une triste situation il y a longtemps dans ma vie, où j'ai été congédié d'un travail que j'aimais vraiment. Ah, je croyais que c'était mon avenir. Et je l'ai perdu, la job. J'ai été congédié pour des raisons que je trouvais injustes et d'une manière que j'ai trouvée cavalière et impolie. Et le patron qui m'avait congédié, en plus, c'était un frère chrétien. Et j'étais vraiment blessé parce que je m'attendais à ce qu'on devienne des amis. Vous me direz, Marc, tu étais trop naïf, mais moi, je vous dis ma réalité. De cette époque-là, j'étais très blessé. Et en plus, j'étais fiancé à Cheryl à l'époque. Tu sais de qui je parle, Cheryl, de la situation. J'étais fiancé à Cheryl à l'époque et je perds ma job pas longtemps avant mon mariage. Ah! J'ai dit, crime le traître. J'étais vraiment blessé. Je me sentais trahi. Et je lui en voulais de m'avoir viré peu avant mon mariage. Et cela m'a pris un an complet de lutter avec le pardon pour lui pardonner. Vous me direz, c'est pas long? C'est long quand tu sais qu'il faut et que tu es un responsable dans une église. Je n'étais pas pasteur, mais j'étais diacre. C'est long, un an. Pendant un an, je pensais à cette offense. Je vous dis, il m'arrivait de rêver dans mon sommeil et pendant que j'étais réveillé. Par exemple, quand j'étais dans la douche, je me souviens, j'étais une fois dans la douche, je rêvais à rouer ce frère de coups de poing. Oui. Oui, je sais. Vous voyez comment le manque de pardon nous amène dans la folie. Le refus de pardon me rongeait. Et je me suis marié avec Cheryl cette année-là. Je vous dis, même durant ma cérémonie de mariage, et c'est vrai que j'étais amoureux en même temps, heureusement, ça l'a diminué la colère. Mais je me souviens même durant la cérémonie du mariage, excusez-moi, je viens de perdre mes notes, mais je me souviens de l'histoire, à un moment donné, j'ai comme... J'étais obsédé, j'ai eu l'impression que ce frère était rentré dans l'église, que je n'avais pas invité à mon mariage, ça, vous pouvez être sûr. Eh bien, j'ai cru l'apercevoir, mon cœur s'est rempli en plein dans le plus beau jour de ma vie, de colère, de violence et même de peur. C'est ridicule. J'aimerais quand même retrouver mes notes ici. Voilà, OK. Qu'est-ce que j'essayais de dire? Non, mais c'était pas lui. Heureusement, je me suis rendu compte et je me suis calmé et on a pu se marier correctement. Mais vous voyez comment le refus de pardon me rongeait. Et le Seigneur, dans sa grâce, m'envoyait des encouragements à pardonner, des aides. Abandonner avec un frère, on lisait un livre sur la vie chrétienne en Église, un livre de Dietrich Bonhoeffer, c'est un pasteur quand même assez populaire, un auteur. Et puis, le livre s'appelait, je pense, « Vivre en communauté », un truc comme ça. À un moment donné, il y avait un chapitre, « Il faut pardonner rapidement ». Je vous dis, j'étais pas prêt. Et j'ai détruit le livre et je ne l'ai pas fini. Je l'ai déchiré en miettes. Cheryl s'en souvient. Mais dans sa grâce, Dieu a persévéré et il a envoyé un frère qui m'a parlé du pardon. Ça, c'est un frère qui, lui, avait vécu une situation qu'il a été trahi par un partenaire de business qui fait que lui s'est retrouvé en prison à la place du partenaire de business. Et je trouve qu'il s'est converti en prison. Alors, gloire à Dieu pour ça. Je lui parlais de ça. Il m'a raconté son témoignage. Il m'a amené jusqu'à la croix. Il m'a amené jusqu'au pardon. En fait, c'est le Seigneur. Je suis allé voir le frère qui m'avait blessé. En fait, j'avais déjà réussi à lui pardonner en comprenant mon pardon, en comprenant le royaume, et puis en comprenant aussi quelque chose d'autre, c'est que quand je suis allé le voir, ce frère-là qui a accepté de me voir, qu'est-ce que j'y ai dit? C'est « Je voudrais te demander pardon pour les gestes que j'ai posés quand il y a eu le congédiement. » Parce que ça, on n'y pense pas quand on est en... Je n'utiliserai pas le mot. En colère, oui, merci. Mais j'ai comme réalisé, waouh, oui, j'ai fait des choses laides dans le bureau de mon ex-boss. Des choses laides qui n'ont pas contribué au royaume de Dieu. J'ai dit des choses, j'ai même envoyé une lettre après. C'était laid. Mais j'y ai demandé pardon. Il m'a pardonné, puis en plus, il m'a demandé pardon après. Est-ce que ce n'est pas merveilleux? Mais c'est la croix qui m'a amené au pardon, heureusement. Donc, je vais terminer quand même avec deux invitations à toi, à nous tous, mais à toi personnellement. Premièrement, première invitation, viens dimanche prochain, parce qu'on poursuit ce thème. Le pasteur Michel va aller un peu plus loin dans l'application pratique de comment ça marche, ce pardon-là. Je ne sais pas si je peux en dire plus, Michel, ou... OK. Oui. Non, mais je sais de quoi il va parler. Il va y avoir du nouveau, puis du pratique, et puis un regard vers certains types de situations concrètes. Venez dimanche prochain. Mais deuxièmement, déjà ce matin, est-ce que tu sais, après ce que j'ai dit, j'ai besoin, moi, de l'aide de Dieu pour pardonner à quelqu'un. J'ai besoin de l'aide de Dieu. Je le sais. Moi, je t'invite maintenant, OK, demande tout de suite à Dieu de te donner cette aide. C'est Dieu qui est capable de te donner. Et même, je te dirais, si tu te sens à l'aise, si ça peut t'aider, lève donc la main maintenant. Je ne te tords pas le bras, mais si ça peut t'aider à avancer dans ta lutte avec le pardon, tu peux lever la main maintenant et on peut prier avec toi. Je vois une main. Oui, demander de l'aide à Dieu pour un pardon. Pas général nécessairement, mais une situation particulière. Je vois quelques mains et j'aimerais qu'on puisse prier pour vous. J'aimerais agir presque comme un pasteur de l'ancien temps, de vous demander de venir en avant. Mais vous pouvez rester où vous êtes ou venir en avant. Le but, c'est entre vous et Dieu. Moi, je veux qu'on vous aide à demander. Et puis, vous allez recevoir. Venez en avant, ceux qui veulent. Nous allons prier pour vous. Et j'inviterai le pasteur Michel à venir aussi en avant. Et on va prier. Simplement, Père du ciel, aide ma sœur, aide mon frère à recevoir la capacité de pardonner.